plus importantes et les plus originales de la psychanalyse, Jacques Lacan.
La psychanalyse est un remède contre l'ignorance. Elle est sans effet pour la connerie. Jacques Lacan.
D'histoire. Il fut à la fois le plus célèbre et le plus controversé des psychanalystes français. Disciple de Freud, dont il a pourtant pourfendu le dogme, enfant terrible d'une discipline à laquelle il fut le premier à donner une armature philosophique, Jacques Lacan s'est mis à dos une bonne partie des psychanalystes qui lui reprochaient son arrogance, son goût pour les mondanités et pour l'argent. Mais les honoraires exorbitants de ces séances ultra courtes, qui ne duraient parfois que quelques secondes, n'empêchaient pas ses patients de faire la queue dans son cabinet de la rue de Lille. Et le langage incompréhensible de Lacan n'empêchait pas ses disciples d'assister aux célèbres séminaires dans lesquels le maître dispensait un enseignement auquel, il faut bien le dire, même les lacaniens les plus fervents ne comprenaient pas grand-chose.
Il y a un indécidable qui s'articule de ce que l'indémontrable ne saurait être décidé. Ne pas oublier que dans la psychanalyse, le falsus est causal de l'être, un procès de vérification.
Corinne Maillère, bonjour.
Bonjour.
Heureusement que vous êtes là pour traduire le langage de Lacan, comme vous le faites dans un livre amusant, le Lacan dira-t-on, un petit guide franco-lacanien où l'on trouve des formules comme celles qu'on vient d'entendre. Alors, le falsus est causal de l'être en procès de vérification. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça veut dire quelque chose?
Alors, écoutez, je vais vous dire franchement, je ne sais pas, parce que comme tout Lacan, en fait, il faut voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et enfin, sortir une phrase toute seule, c'est vrai que c'est quand même très difficile à traduire, donc je vais vous avouer que je passe.
Comment peut-on avoir été aussi, à la fois aussi obscur que Lacan et aussi populaire? Parce que ces séminaires, on y reviendra, mais ils étaient bondés.
Ah oui, mais non, mais l'obscurité n'empêche pas le succès. Et en ce qui le concerne, justement, son obscurité est un des facteurs de son succès. Parce que, bon, il était très intelligent, donc il a déployé une pensée très originale et toujours en mouvement. Et les gens étaient fascinés par ça. C'est précisément pour ça qu'il y avait autant de monde. C'est parce que ça avait un côté mystérieux, toujours ouvert, toujours remanié. Et qu'en plus, quand il enseignait, il se mettait en jeu complètement.
Quand vous dites original, Corinne Maillère, bon, ce qu'il y a de curieux chez cet homme, d'abord, c'est ses origines familiales. Rien ne le prédisposait. Il est né en 1901, dans une famille plutôt bourgeoise. Rien ne le prédisposait à devenir psychanalyste. Et d'ailleurs, il y vient par le biais de son goût pour l'art, pour la philosophie. Aussi.
Oui, enfin, il a fait des études de médecine puis de psychiatrie assez classiques, effectivement. Mmh. Donc, on pouvait penser que ça deviendrait une sorte de bourgeois français, comme il y en a eu beaucoup au début de ce siècle, mais pas du tout. Comme il s'intéresse à beaucoup de choses, il s'intéresse à la philosophie, à l'art, aux sciences, et il va s'imprégner, en fait, de toute la pensée de son siècle. En allant par exemple au séminaire de Kojève ou à des gens comme ça qui enseignaient à la même époque que lui ou qui déployaient leurs pensées à ce moment-là, et il va contribuer en fait à l'énorme effervescence intellectuelle qu'il y a eu en France au XXe siècle, puisqu'il faut bien dire qu'on a quand même été gâtés entre Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, enfin les noms se pressent, enfin il y a eu Barthes, Foucault, enfin il a eu des contacts avec tous ces gens, avec Althusser, avec et donc ça donne une créativité intellectuelle exceptionnelle.
Et Lacan donc parmi eux, Lacan qui se disait freudien plus que lacanien et qui pourtant était plutôt mal vu de l'école freudienne. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau, Corinne Maillère, à la psychanalyse?
Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, je pense que son ambition, c'était probablement de révolutionner la psychanalyse. Donc, c'est déjà en soi très intéressant. Et ce qu'il a voulu faire, c'est d'abord logifier l'œuvre de Freud, parce qu'il considérait que Freud était un grand génie, donc le père fondateur de la psychanalyse. Mais il trouvait qu'il y en avait un peu partout et que c'était compliqué à ranger, qu'il fallait ranger tout ça. Voilà. Donc, son idée, c'était on va donner une logique à ça. Et la logique, c'était principalement pour lui, les lois de la linguistique, puisqu'il s'intéressait énormément donc à la linguistique qui était en pleine effervescence justement au XXe siècle. Enfin. Et la deuxième idée qu'il avait, c'était c'était d'essayer de moderniser la psychanalyse en s'imprégnant des apports, enfin de ce qui se déroulait autour de lui, c'est-à-dire de la philosophie, de la topologie, de toute l'effervescence intellectuelle qu'il y avait autour de lui.
En tout cas, ça va le mettre dès les années 30 en marge des plus importantes institutions de la psychanalyse, la SPP, la Société Psychanalytique de Paris, et puis aussi l'IPA, l'Association Internationale de Psychanalyse, qui en 1973 avait refusé d'inviter Lacan à son 28e congrès.
Docteur Lacan, en ce moment se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité, vous n'en êtes pas.
Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt.
Alors là, contrairement à tout à l'heure, on a tout compris, Grimmaier, c'était clair. Lacan est donc exclu, ou pas reconnu en tout cas par l'Association internationale de psychanalyse, qui refuse de l'inviter à son 28e congrès, de même qu'elle refuse de reconnaître l'école freudienne de Paris que Lacan a créée en 1964. Qu'est-ce qu'on reprochait à Lacan? On a beaucoup dit, par exemple, que la façon dont il faisait des analyses n'était pas du tout conforme aux critères définis par l'Institut, par l'IPA. Par exemple, il faisait des séances ultra courtes, même de quelques secondes. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant.
Là, faut pas exagérer, il faisait des séances à durée variable. Alors, ultra courtes, c'était plutôt vraiment vers la fin. Mais dans l'ensemble, il a introduit ça parce qu'il pensait que ça donnait plus de punch à l'affaire. Bon, c'était son idée, et c'est vrai que ça a été mal perçu, parce qu'auparavant, il y avait l'idée qu'une séance, c'était quelque chose qui durait une heure. Voilà. Mmh. Et donc, il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles il était un petit peu mal vu. Il y a eu cette affaire de séance, il y a eu aussi le fait qu'il avait quand même un style qui détonnait, enfin, au milieu de gens qui, quand même, sont des notables. Donc, lui, il avait une sorte de style pas possible, c'est vrai que ça choquait un peu. Et puis, autre chose, c'est quand même un esprit extrêmement original, et comme tous les esprits originaux, eh bien, parfois, ils sont un peu ostracisés, en fait.
Oui, on n'aime pas les têtes qui dépassent, quoi.
Et puis,
psychanalyse, comme dans beaucoup
de cas. Oui, c'est exactement pareil. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, je pense que malgré tout, il était pour quelque chose dans cet ostracisme, parce qu'il se voyait, lui, comme une sorte de pierre rejetée de la psychanalyse. Donc, il aimait aussi ça, le fait de... Il n'est pas sans l'avoir cherché, si vous voulez. Et il s'est souvent comparé à Spinoza, qui a été mis à la porte du judaïsme, enfin, vous voyez. Donc, je pense que ça faisait aussi partie de la façon dont lui-même se voyait.
On lui reprochait aussi son goût pour l'argent, ses séances, même quand elles étaient courtes, coûtaient très cher, je crois, Grimmaier.
Alors, elles coûtaient très cher, mais pour ceux qui pouvaient payer. Pour les autres, ces séances étaient à durée variable, mais ses tarifs étaient aussi variables en fonction de la personne qui venait le voir. Et il avait quand même la caractéristique de prendre des gens dont personne ne voulait s'occuper, c'est-à-dire des gens suicidaires et des gens qui quand même présentent un risque pour un psychanalyste.
Alors ça n'empêchait pas justement ses patients de venir très nombreux dans son cabinet de la rue de Lille où il s'était installé dès 1941 et qui tous ont été très marqués par leur analyse avec Lacan, comme Gérard Haddad au micro des Nuits Magnétiques de France Culture le 6 octobre 1981, quelques jours à peine après la mort de Lacan.
Que je ne vous raconterai pas ma cure, c'est évident. Mais de toute façon, ça ne peut pas se raconter. Non seulement pour des raisons de réserve personnelle que vous comprendrez facilement, mais même si on voulait même raconter la cure d'un de ses patients, c'est impossible. Freud l'avait noté à plusieurs reprises. Ce que je peux dire, c'est que je dois personnellement, je dois tout et rien d'ailleurs, parce que ça, c'est au niveau de, si on peut dire, non pas de l'avoir que ça se passe avec lui, mais je ne connais pas un seul terme de ma vie qui n'ait pas été remodelé, remanié par mon analyste, c'est-à-dire par ma rencontre avec Jacques Lacan.
J'avais envie de faire une analyse. J'étais pas bien, mais sans raison précise. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'être écouté. Et un beau jeudi à 5 heures, j'ai déballé ma vie, mon cœur, sur un divan à fleurs.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Jacques Lacan.
C'était analyse de Philippe Châtel, qui n'était pas forcément sur le même divan que Gérard Haddad, très marqué, on l'a entendu, par sa rencontre avec Lacan, comme tous ceux d'ailleurs qui sont entrés dans son cabinet de la rue de Lille, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, Lacan a été encensé par certains, détesté par d'autres. Alors écoutons d'abord donc ceux qui se sont allongés sur ce fameux divan et ont le sentiment quand même qu'il les a sauvés. Françoise Giroud, par exemple, à 40 ans, va le voir après une tentative de suicide. Les analystes, d'habitude, dit-elle, se gardent des suicidaires. Lacan, lui, les acceptait. Alors cette analyse durera 4 ans. Grâce à lui, dit-elle, j'ai pu reconstruire avec un homme une relation harmonieuse et solide. Autre célébrité, l'architecte Roland Castro, ex-maoïste, si je ne l'avais pas rencontré, dit-il, je serais devenu terroriste, je me serais engagé dans les brigades rouges. Mais Lacan reçoit aussi des gens, hein, comme vous et moi, Ouda, par exemple, une étudiante d'origine algérienne, qui entame une analyse avec Lacan en 1974. Il m'a demandé ce que je pouvais payer, et jusqu'à la fin, le prix de la séance est resté modique. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être envoûtée, mais Lacan ne jouait pas au gourou, il avait une écoute fantastique. Alors, si Lacan n'est pas un gourou, un autre, analysant, hein, comme on dit, l'écrivain Pierre Rey en parle comme d'une drogue. M'eût-il demandé de le rejoindre aux antipodes pour une entrevue de 20 secondes à 10 millions, j'aurais trouvé l'argent et j'y serais allé, question de vie ou de mort. Alors, à propos de ces séances courtes, un Américain, Stuart Schneiderman, l'a vécu. Il y avait, dit-il, quelque chose de l'horreur de la mort dans ces séances courtes dont on ne pouvait savoir la durée à l'avance. Mais il reconnaît tout de même, dans ce cas-là, vous dites immédiatement ce qui vous passe par la tête, vous n'avez pas le temps de ruminer. Alors, sur la scène intellectuelle parisienne, le philosophe Althusser voyait en Lacan un des siens. Il disait « Lacan mène un combat implacable contre l'humanisme, le scientisme et le personnalisme ». Mais Althusser disait aussi « Si vous allez à son séminaire, vous verrez toutes sortes de gens en prière devant un discours inintelligible pour eux. C'est la méthode du terrorisme intellectuel ». En plus tard, Jean-François Revel traitera Lacan de Sacha Guitry de la psychanalyse avec, je cite, son « malarméisme de banlieue et un hermétisme pour femmes du monde fatiguées ». Pas très gentil pour les femmes du monde fatiguées, bon. En 77, le philosophe Castoriadis s'en prend violemment aussi à Lacan et au rôle qu'il a joué sur la scène parisienne. Il l'accuse même de se servir de la notion de signifiant, hein, pour masquer les horreurs du stalinisme et du maoïsme. Alors pour donner un peu une idée de l'aura qu'avait Lacan de son vivant, Elisabeth Rodinesco, sa biographe, raconte qu'en 69, l'activiste d'extrême gauche Pierre Goldman décide de commettre un hold-up au domicile de Lacan. Ce qui m'intéressait, dit-il, dans cette agression, c'était qu'elle eut lieu chez un psychanalyste génial. Mais arrivé sur place, il est un peu embêté. Lorsque je vis ce penseur aux cheveux blancs, je fus saisi, frappé, impressionné. Jamais je ne pouvais diriger une arme sur lui. Je le dis à mon comparse et nous partîmes.
Un commentaire sur ces témoignages, Corinne Maillère, assez étonnant. Il faut dire que chez Lacan, où Goldman voulait faire un cambriolage, il y avait de belles choses.
Oui, oui, c'était un collectionneur. Il était un collectionneur fasciné. Il avait beaucoup d'œuvres d'art. Il avait notamment la fameuse toile de Courbet, L'origine du monde, qui est un tableau très connu, qui représente une femme les jambes ouvertes. Et il avait beaucoup. Il adorait les belles choses. Et je pense que ça faisait partie du personnage que d'aimer le beau.
Oui, il y avait un Renoir. Il y avait.
Oui, oui.
Picasso. Il y avait 5000 livres.
Oui, oui. Il collectionnait tous les livres anciens. Enfin, je crois qu'il avait beaucoup d'objets. Mais pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, là, il y a des témoignages qui sont très intéressants que vous venez de lire. Et alors, effectivement, pour revenir à Pierre Goldman, ce qui est frappant, c'est qu'il y a court dans Paris cette idée que si en France on n'a pas eu de terrorisme comme l'Allemagne, c'est grâce à Lacan.
Et à Sartre.
Parce qu'il a récupéré, il aurait récupéré un certain nombre de têtes folles qui, à l'époque, étaient un peu perdues après 68 et qui, venant le voir et venant parler sur son divan, auraient ainsi échappé.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéresse à tout le monde parce qu'il est cher pour ceux qui ont de l'argent, mais en revanche, il est totalement disponible, y compris pour ceux qui n'en ont pas. Je crois que tout le monde avait son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler en cas de détresse. Hein, on l'a vu pour Françoise Giroud, par exemple.
Oui, il s'impliquait énormément dans ses cures, parfois quand les gens n'allaient pas bien, ils allaient le voir dans sa maison de campagne, ils étaient reçus immédiatement, enfin il était très disponible, il était toujours là, ça faisait partie du personnage en fait.
Il y a un personnage dans son entourage que Lacan, je crois, n'a pas analysé, et qui était un de ses amis, pourtant, qui était vraiment, bon, on peut le dire, qui était en tout cas maniaco-dépressif, c'était Althusser.
Oui,
Althusser qui a tué sa femme en 80 et qui est mort à Sainte-Anne 10 ans plus tard.
Oui, ils étaient amis, effectivement, Althusser a accueilli donc Lacan... à l'école normale supérieure. Et c'est vrai que, de façon générale, Lacan a toujours beaucoup sympathisé avec les grands philosophes, avec lesquels il y a une multitude de liens et de capillarités. Et je dirais aussi qu'en fait, Lacan adorait les fous. Et ça, c'est une des choses qu'il a vraiment apporté à la psychanalyse, c'est son intérêt passionné pour la psychose, je dirais, à laquelle il a donné ses lettres de noblesse, en quelque sorte. Parce que pour Freud, il n'y avait pas vraiment de distinction entre la névrose et la psychose. Et Lacan, dès sa thèse de médecine, s'est passionné pour les fous. Et il considérait
les criminels, les sœurs Papin.
Voilà, il a écrit sur les sœurs Papin aussi. Il considérait que la psychose paranoïaque était non pas un handicap, mais au contraire un effort de logique pour inventer quelque chose.
Alors vous avez dit que Althusser avait accueilli Lacan. En fait, il a accueilli, on n'en a pas encore parlé, ces fameux séminaires dans lesquels, depuis 1951, Lacan enseignait la psychanalyse et dans lesquels son humour et son style inimitable, il faut bien le dire, fascinait ses auditeurs, comme ce fut le cas à Rome en 1974, au 10e anniversaire de l'école freudienne, un enregistrement d'amateur qui explique la mauvaise qualité du son.
Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage. Mais tout ce qu'on peut faire de mieux, enfin, dans ces fameuses étreintes, enfin, c'est de dire « serre-moi fort enfin, ». Mais on ne sert pas si fort que l'autre finisse par en crever, quand même. Le langage, je ne trouve pas du tout que ce soit la panacée universelle. C'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a de mieux, n'est-ce pas? Toute la langue est une langue morte, même si elle est encore en usage.
En tout cas, la langue et le langage de Lacan étaient bien vivants, Corinne Meyer. On vient d'entendre d'ailleurs une des plus célèbres formules de Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. C'est ce que ça veut dire. Vous avez dit d'ailleurs qu'il s'intéressait au langage.
Il pensait qu'à l'origine de toute chose, il y avait l'inconscient et le langage. Et pour lui, tout découlait en fait de ça. Donc il y a dans son enseignement toujours cette sensibilité au langage et à la langue, à ses expressions, à sa dynamique propre. Et d'ailleurs, lui-même utilisait le langage de façon extrêmement personnelle. Enfin, il a une voix qui est vraiment sidérante.
Ah oui,
une façon de dire les choses.
Un style fabuleux, ouais.
Il avait un style absolument fabuleux. On voit, il parle dans des sortes de circonlocutions qui probablement imite les volutes de l'inconscient. C'est fait pour ça aussi, c'est fait pour montrer l'inconscient en acte.
Parce qu'il fascinait pas seulement ses patients, mais aussi tous ceux qui venaient l'écouter dans ses séminaires, qui étaient ouverts à tous. Ça commence dans les années, au début des années 50, je crois, les séminaires de Lacan, Corinne Meyer.
Oui, c'est ça. Il commence dans les années 50. Il commence d'abord chez lui. En fait, il a une vingtaine d'élèves. Et ensuite, il commence ses séminaires donc à Sainte-Anne. Il commence à commenter Freud. Et au début, c'est un peu confidentiel. Et puis progressivement, ça gagne en ampleur jusqu'au moment où ça devient un truc parisien où tout le monde va, où il faut arriver à l'avance parce que sinon il n'y a pas de place, où les gens considèrent qu'il se passe comme une sorte de cérémonie, où il faut assister. Même Dalida, d'ailleurs, y a été une fois, donc c'est dire le succès. Enfin, c'est vraiment un peu le monde à l'envers.
Ouais, c'était un peu mondain quand même.
C'était carrément mondain, oui, oui, oui. Oui, en plus, il y avait des gens
qui... Même on ne comprenait rien, mais...
Oui, c'est ça, ça faisait partie. En plus, il y avait des gens autour de lui qui considéraient que c'était une sorte de culte qu'il fallait organiser, alors qu'il était là, confit de dévotion. Donc ça devait être assez particulier, effectivement.
Puis lui-même, il était, ne serait-ce que par sa tenue vestimentaire, il avait toujours des espèces de costumes absolument insensés, très dandy, Lacan, collectionneur de voitures, avec un cigare entortillé au bord des lèvres, collectionneur de femmes aussi. Je crois que c'est Elisabeth Rodinesco qui disait, Lacan est aussi incapable de quitter une femme que de lui rester fidèle.
Oui, c'est assez joli. Je crois qu'effectivement, Lacan, c'est aussi un style. Et d'ailleurs, il reprenait toujours ces phrases de Buffon, le style, c'est l'homme. Et il considérait que, il y a une construction de soi qui exige qu'on déploie son propre style. Et effectivement, le sien était inimitable. Mmh. C'était quand même aussi quelqu'un qu'on faisait des tonnes, faut bien dire. Il y a cette fameuse photo qui est très connue, on le représente en manteau de fourrure avec son cigare tordu. Enfin, moi, je n'oserais pas sortir comme ça. C'est incroyable. Il est impayable, c'est le cas de le dire.
Un dandy.
Oui, un dandy. Un dandy moderne.
Et puis alors, avec un vocabulaire, on y revient, on a entendu au début, avec des mots, il faut vraiment, et c'est un langage, vous avez fait heureusement un dictionnaire pour qu'on comprenne à peu près tout ce qu'il peut dire, hein, le Lacan dira-t-on, le guide français lacanien, avec des mots comme signifiant, par exemple, ça veut dire mot, tout simplement, non?
Pourquoi est-ce qu'on dit pas mot? Il faut imaginer que c'est le mot auquel on aurait retiré le sens. Donc c'est le mot tout nu. Essayez d'imaginer un mot tout nu, c'est plutôt ça. Enfin, ça vient de la linguistique, en fait. Donc il y a signifiant, signifié, c'est pas la même chose. Ouais. Signifié, c'est le sens.
Il y a forclusion, mathème, sexuation, nœud borroméen. C'est quoi ça?
À la fin de son enseignement, dans les années 70, il a tenté de logifier la psychanalyse sous deux formes. D'abord les mathèmes, donc c'est des sortes de formules mathématiques. Donc il a essayé d'écrire l'inconscient sous forme mathématique, donc ça donne des formules qui sont très complexes, et sous forme de représentation de nœuds, si vous voulez, de nouages et de tressages. Donc il était là à tresser ses trucs et puis en dessiner au tableau pour représenter l'inconscient. C'est des tentatives pour logifier l'affaire, si vous voulez.
Il disait, je crois que la psychanalyse était une science, ce qui aussi était un peu iconoclaste à l'époque, non?
Ben, je pense qu'il aurait souhaité donner à la psychanalyse le statut de science. C'était sa grande ambition, parce qu'il pensait que si on arrivait à une certaine épure et à déployer les choses de façon très claire et très, très scientifique, la psychanalyse aurait un statut plus valorisant qu'elle ne l'a actuellement. Mais bon, dire que... Enfin, je ne suis pas vraiment convaincu qu'il ait réussi, disons.
Sa vie privée était quand même assez spéciale. On peut dire qu'il était ni un bon père, ni un mari exemplaire. Hein. Bon, il a très jeune, c'est normal. Hein. Il tombe amoureux d'une certaine Marie-Thérèse Bergerot, qui a 15 ans de plus que lui. Ensuite, Olencia Sienkiewicz, qui était la deuxième femme de Drieu La Rochelle, qui était un de ses amis, je crois. Et puis alors, il épouse, il se marie quand même, Marie-Louise Blandin, avec laquelle il a 3 enfants, dont l'un est né en même temps qu'un enfant d'une autre femme, Sylvia Bataille, la femme de Georges Bataille. C'est quand même, il avait une vie étonnante quand même, Lacan.
Oui, c'est vrai que ça fait partie du personnage aussi, cette espèce de... C'était quelqu'un, effectivement, qui avait un style très différent de Freud. Freud, c'était une sorte de bourgeois, rangé, viennois, très, très posé, avec une vie conjugale très stable, et qui a tout sacrifié à son œuvre, en fait. Alors que Lacan, au contraire, il a été à fond dans tout ce qu'il a fait. On peut considérer qu'effectivement, il a mené une vie de patachon qui fait partie aussi du personnage. Enfin, effectivement, c'est assez plaisant. Il aimait les femmes, oui, ça fait partie du personnage.
Et il aimait les belles choses, on l'a dit.
Et les belles choses,
l'heure.
Oui. Effectivement, vous en avez oublié une qui est très importante. C'est aimer une folle, enfin une paranoïaque qu'il a rencontrée à Sainte-Anne quand il était jeune médecin, et à laquelle il a consacré sa thèse de médecine. Alors bien sûr, aimer n'était pas aimé par Lacan, mais il en a aimé la logique et le talent, enfin l'intérêt en tant que cas clinique.
Alors, il est mort en 1981 avec une immense fortune, on s'en doute, mais très préoccupé par sa postérité, dont il parle 9 ans avant sa mort à Nadine Limier en 1973.
Vous êtes quelqu'un d'écouté passionnément, de controversé passionnément, de suivi. Selon vous, quels sont vos continuateurs?
J'ai, depuis quelque temps, le bonheur de m'apercevoir que quelques-uns de ceux qui sont restés autour de moi non seulement ont su entendre ce que j'ai appelé tout à l'heure quelques formules plus ou moins heureuses, mais d'ores et déjà savent leur donner plus qu'un écho, une suite, et que c'est certainement bientôt qu'on s'apercevra comment mon enseignement peut être repris et continué.
Qu'est-ce qui reste de l'enseignement de Lacan et de l'école lacanienne aujourd'hui, Corinne Maillère, un quart de siècle à peu près après sa mort?
Ben de Lacan, il nous reste évidemment le style et puis les séminaires, même si tous ne sont pas publiés, il nous reste ses écrits, qui sont un recueil d'articles. Donc il nous reste l'œuvre, enfin l'enseignement. Et
il attache énormément d'importance à ses écrits, il était même très inquiet de la façon dont il serait perçu plus tard.
Oui, on peut le concevoir, effectivement, vu déjà la complexité de ce qu'il nous a laissé, je pense qu'il y a effectivement de quoi s'inquiéter, même s'il l'a voulu exprès et complexe, hein, donc c'est aussi son choix. Et il reste aussi une multitude d'écoles lacaniennes, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Les lacaniens ne s'entendent pas très bien entre eux. D'ailleurs, Lacan ne s'entendait pas avec les autres psychanalystes, donc je pense que la relation de cause à effet est évidente. Et donc, il y a différents groupes. Il y en a un qui est plus gros que les autres, peut-être, l'école de la cause freudienne. Et puis, il y a une multitude de groupes, une pulvérulence de groupes qui sont assez différents et qui sont tous un petit peu dans la lignée de ce que... qui essaient un petit peu de travailler les textes et de continuer ce que Lacan... souhaitait.
Et des disciples très importants. Il y a une femme dont on n'a pas parlé, mais qui l'a suivie jusqu'au bout, et qui était Françoise Dolto.
Oui, effectivement, ils ont été proches. Elle avait une position un petit peu en retrait par rapport à lui. On ne peut pas dire que c'était un disciple. Enfin, Françoise Dolto, elle a mené sa propre voie. Elle était proche de Lacan, elle a mené sa propre voie. Elle s'est parfois inspirée de ce que disait Lacan. Elle disait elle-même qu'elle ne comprenait pas tout, mais personne ne comprend tout. Enfin,
pas Lacan lui-même, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Non, mais ça, je le crois vraiment, en fait. Parce qu'il remaniait en permanence les concepts, donc ça finissait par lui échapper, peut-être, à certains moments. Et Françoise Dolto a eu sa propre voie, donc, avec un enseignement original, plutôt destiné, enfin, ça, c'est une pratique plutôt tournée vers les enfants, et qui était avec des lignes entrecroisées par rapport à la trajectoire de Lacan.
Merci Corinne Maillère. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres, entre autres, sur Lacan, le Lacan dira-t-on, guide français lacanien, publié chez Mots et compagnie, et Lacan sans peine, publié chez Stanquet. À lire également la biographie très importante de Lacan par Elisabeth Rodinesco, qui a été publiée chez Fayard. Enfin, Lacan, de Paul-Laurent Hassoun, publié dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Sébastien Royer, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, avec une autre voix, je l'espère, je recevrai un auteur passionnant, mais très controversé, Jean Sévillat, qui nous parlera de manière...